RFI TV5 Monde vous présente Afrique Presse, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Vincent Hugeux de L'Express. Au sommaire, la tournée africaine de la chancelière allemande à Bamako et à Niamey. Les échanges ont essentiellement porté sur la sécurité dans la zone sahélienne. Au Niger, 650 soldats allemands viendront renforcer la MINUSMA. Mais pour Berlin, on ne peut pas dissocier le soutien militaire de l'aide au développement. À Addis Abeba, dernière étape de la tournée, il aura surtout été question des droits de l'homme. Et pour finir, les nouvelles tensions entre Kigali et Paris. Paul Kagame n'a guère apprécié la réouverture de l'enquête sur l'assassinat le 6 avril 1994 de son prédécesseur, Juvénal Habyarimana. Plusieurs proches du président rwandais sont visés. Mais commençons d'abord par le Nigeria, avec la récente libération de 21 lycéennes de Chibok, enlevées il y a 2 ans par Boko Haram. Les autorités nigérianes se défendent de toute transaction financière. C'est malgré tout, Hassan, un signe d'espoir, puisqu'il reste encore 197 captives.
Oui, alors ce qu'il faut noter effectivement, c'est que les autorités nigérianes à la fois nient toute négociation avec le mouvement terroriste Boko Haram et par ailleurs réfutent toute transaction financière. Mais on notera tout de même que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, a été appelé à la rescousse, car on a vu que Abuja avait remercié le CICR. Et lorsqu'on remercie le CICR quand on récupère des prisonniers, c'est qu'en général ça a été négocié et qu'il y a peut-être même eu échange de prisonniers, comme le laisse entendre la presse internationale et même une partie de la presse nigériane qualifiée de crédible par notre antenne RFI. Voilà, ce qu'on constatera évidemment, c'est que le président Buhari, qui est arrivé au pouvoir pour éradiquer Boko Haram par les armes, finalement sera contraint de négocier comme les Américains tentent de négocier avec les talibans en Afghanistan.
Vincent, je vous partagez cette analyse ?
Oui, alors sur le fond, ça pose, me semble-t-il, 2 questions. D'abord, si l'on négocie, on installe l'adversaire dans une forme de légitimité. On en fait un interlocuteur recevable. Deuxième question, alors plus humaine, celle-là. Qu'adviendra-t-il de la reconstruction de ces jeunes filles et de leur accueil dans les communautés d'origine? Et puis au-delà de tout ça, Boko Haram. Le pouvoir nigérian me disait il y a quelques minutes, un fin connaisseur de l'échiquier du pays, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, chercheur, a plus gagné la bataille de l'image, des âmes et des cœurs, que la bataille militaire. Car, contrairement à ce que l'on dit, Boko Haram n'est pas réduit aux attentats suicides. Que ce soit au Nigeria, où il y a une sorte de chape de plomb informative, ou que ce soit à l'extérieur des frontières de la Fédération, je pense bien sûr au Niger et à la région de Difa, il y a encore une capacité toxique de nuisance assez considérable. Donc voilà, maintenant il faut gagner aussi l'autre bataille.
Stéphanie Hartmann.
Les observateurs disent aussi qu'il faut négocier, puisque gagner militairement cette bataille contre Boko Haram, ce serait raser toute une partie du Nigeria, du nord du Nigeria et les populations qui vont avec. Non, on peut que se réjouir de la libération de ces jeunes filles. Alors, quand on voit leur visage, on se rend compte qu'elles ont quand même beaucoup souffert. Certaines reviennent avec des enfants, elles ont le visage, voilà. On peut s'interroger sur ce qu'elles ont subi. Elles sont encore beaucoup trop nombreuses et effectivement, Mamadou Bouhari doit encore faire ses preuves sur cette question de Boko Haram.
Première visite d'Angela Merkel cette semaine à Bamako et Niamey. Elle intervient dans un cadre sécuritaire particulier où jusqu'ici la seule présence des troupes françaises a permis de soutenir l'avancée des djihadistes. Si Berlin a décidé de s'engager aux côtés de la MINUSMA avec l'envoi de 650 soldats, la coopération en matière de lèvement est également essentielle pour garantir la paix. Un message qui a été très bien accueilli par Ibrahim Boubacar Keïta à Hassan Diop.
Tout à fait. Et je pense que c'est un tournant que cette visite de Mme Merkel et ce projet d'installer des militaires allemands sur le sol africain au nom de la paix et en relation évidemment avec cette mission de l'ONU dans la région basée donc au Mali. Parce que jusqu'ici, il y a toujours eu, on le sait, on en a souvent discuté entre journalistes, il y a toujours eu une réticence des Allemands par rapport à cette politique française dans ses anciennes terres, dans ses anciennes colonies. Il y a toujours une espèce de méfiance, voire une incompréhension, et ça va même jusqu'à l'existence l'existence du franc CFA, lorsqu'il a été question de l'euro, il a été de nouveau question de rediscuter finalement de la zone CFA, toujours raccordée à l'ancienne puissance, à l'ancienne métropole. Donc effectivement, c'est un tournant de ce point de vue, parce que cette tournée que Mme Merkel a effectuée, François Hollande aurait pu faire la même tournée exactement, ou l'a déjà, fait. Voilà. Par ailleurs, cette tournée aussi est une réponse peut-être à des préoccupations beaucoup plus de politique intérieure en Allemagne. C'est la question de la lutte contre le terrorisme. Donc, elle veut démontrer que le terrorisme, c'est pas uniquement une préoccupation à huis clos qui ne concerne que les Allemands. Il faut peut-être aussi parfois aller lutter contre ce terrorisme à la source. Et puis, il y a la question de la migration, hein, qui aujourd'hui touche de plein fouet la chancelière allemande, puisqu'elle a perdu, en tout cas, son parti est en recul dans un certain nombre, que ce soit à Berlin, lors des dernières élections municipales, ou dans son fief de Poméranie occidentale, son parti chrétien-démocrate a reculé. Voilà, il y avait plusieurs aspects derrière cette visite qui s'est conclue, comme on le sait, hein, avec la venue à Berlin, à la fois du président du Tchad, Idriss Déby, ce mercredi.
Et le Nigérian qui est attendu.
Et le Nigérian, Mohamed
Boubouhari. Alors, Vincent Léger, on peut se féliciter de cette grande implication de l'Allemagne, hein, sur ce front sahélien, mais on peut se souvenir également que la proposition américaine qui avait été faite dans le cadre d'Africom avait suscité d'énormes réticences par les pays de la région.
Oui, bien sûr. Réticences, je dirais, historiques et postcoloniales, d'une certaine manière, recevables. Ce que je trouve le plus frappant, c'est le pragmatisme très germanique de l'approche de Angela Merkel, dont c'était quand même, depuis 2007, le troisième voyage sur le continent. Au fond, l'Allemagne n'est pas vierge d'un passé colonial, et d'un passé colonial ô combien douloureux. Souvenons-nous que dans l'Allemagne de Bismarck, lui qui disait que le commerçant doit passer devant le soldat, eh bien, vous avez eu des aventures qui sont parfois mal terminées. Cameroun, c'était une partie de l'histoire de ce pays, douloureuse. Le Togoland, et puis vous avez aussi l'actuelle Namibie, avec le massacre des Herero. Mais là encore, pragmatisme. En 2004, qui était le centième anniversaire de ce carnage, de cette Al-Ali, vous avez des excuses officielle, où on reconnaît le caractère génocidaire. Donc, vous avez l'impression que, quand on compare l'approche allemande de l'approche française, il n'y a pas cette dimension d'affect, de sentimentalité, cette incapacité à sortir de l'enlisement du marigot franco-africain. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, il y a des messages qui sont très explicites et courageux. À Addis Abeba, elle refuse de s'exprimer devant un parlement monolithique dont elle connaît les limites en termes démocratiques. Et elle pousse son hôte, Haïlé Mariam Desalegn, à dire « notre démocratie est encore balbutiante ». Mais si Ibeka à Bamako est effectivement satisfait de cette venue, il y a aussi un message très clair. Elle lui dit, grosso modo, il serait peut-être temps d'appliquer pleinement les laborieux accords d'Alger. Ouais.
Alors, ce plan de la question migratoire, Ibeka a pris l'engagement de mettre fin, hein, de mettre tout en œuvre pour les réduire. En son temps, on se rappelle, Stéphanie, que Amadou Toumani Touré avait pris les mêmes engagements vis-à-vis de la France.
Auprès de Brice Hortefeux, qui est alors ministre, je crois, de l'immigration, c'est comme ça qu'on disait. En effet, on sent bien dans les déclarations, hein, de, non seulement d'Angela Merkel, mais également de l'ambassadeur de l'Allemagne au Niger, que c'est les flux migratoires qui préoccupent beaucoup l'Allemagne dans cette tournée africaine. D'ailleurs, je crois que c'est le Niger qui a accepté la mise en place d'un centre de rétention. Alors, je crois que c'est un centre de rétention plutôt européen, voilà, comme l'avait fait en son temps la Libye. Donc, cette tournée africaine d'Angela Merkel vise surtout aussi des questions de politique intérieure. C'est un tournant aussi pour la défense de l'Allemagne. L'Allemagne qui était longtemps démilitarisée et qui refait son retour sur la scène internationale sur le plan militaire. Je pense qu'il y a une complémentarité sur le plan militaire avec la France. François Hollande, depuis le début de son mandat, a cherché à impliquer davantage l'Union européenne dans les missions de maintien de la paix ou de résolution de conflits, notamment en Centrafrique, au Mali, vous l'avez dit. Après, c'est vrai qu'il y a une concurrence sur le plan économique avec la France, où l'Allemagne vend la qualité germanique et effectivement des relations économiques dénouées d'affect et plus simples.
Il y a une complémentarité, Stéphanie le disait, sur la formation. Hein. Aujourd'hui, l'Allemagne a passé la main à la mission de l'Union européenne pour la formation de l'armée malienne, mais on ne voit pas très bien, aujourd'hui, on ne voit toujours pas les résultats à Hassan Diop.
Et oui, on ne voit toujours pas les résultats parce que cette armée malienne a du mal à exister. Hein. On le voit d'abord parce que c'est Elle existerait où si elle devait exister légitimement? C'est dans des zones de tension, donc c'est le nord du pays. Or, le nord du pays est géré par la MINUSMA. Or, la situation du nord du pays est régie par le fameux accord sur le nord Mali d'Alger, qui interdit pour l'instant à l'armée malienne, par exemple, d'avoir pied à Kidal, où les groupes armés rivaux ou pas continuent de temps en temps à faire parler la poudre, voilà. Donc cette armée effectivement malienne reste une fiction et que cette formation produira peut-être des résultats plus tard.
Il y a quand même une ambiguïté que je trouve assez préoccupante, c'est que l'Union européenne avance sur ce front-là aussi en ordre dispersé. Au fond, il y a des initiatives de nature communautaire, hein, EUTM, formation, etc. Mais vous avez des voyages français, vous avez des initiatives allemandes. Les Allemands vont installer près de Niamey une base logistique, ce qui n'est quand même pas tout à fait banal dans l'histoire politique de ce pays. D'une certaine manière, on a l'impression que les Allemands, et d'ailleurs des diplomates germaniques le confessent quand vous discutez en off the record avec eux, qu'ils ne veulent pas être en quelque sorte les otages des arriérés des aventures coloniales françaises. Il y a toujours une sorte de méfiance.
A fortiori, les autres pays européens.
Voilà,
les absolument. Polonais, les Lituaniens.
Et on a l'impression de ne pas avoir, de cette manière, traversé ce plafond de verre symbolique. Et c'est assez contre-productif, me semble-t-il.
Stéphanie Hartmann, cette semaine, on a appris quand même la mort des suites d'un attentat d'un des membres influents de la coordination des mouvements de l'Azawad. Qu'est-ce que ça peut changer dans la marche vers la paix?
On s'interroge encore d'ailleurs sur les commanditaires de cet attentat.
L'enquête est ouverte.
La CMA pense que l'explosif a été posé au sein du camp de la MINUSMA.
C'est ce qu'ils disent en tout cas.
Je voudrais qu'on s'interroge aussi sur l'efficacité de la coopération militaire. Donc pour parler de la MINUSMA, de la formation, ses limites, on voit toujours l'armée malienne qui n'est pas très efficace. Le Niger accueille donc plusieurs bases militaires. Il va accueillir donc une base allemande, mais peu de temps après cette annonce, il y a des militaires nigériens ont été attaqués par une attaque djihadiste. Donc ça montre bien que ces bases militaires ne sont aucunement une garantie de sécurité pour les Nigériens. Et que je suis pas sûre que ça serve la sécurité des Nigériens, peut-être plus celle des Européens.
Un dernier mot, Hassan Diop, sur la dernière étape à Addis Abeba, à l'Union africaine, avec cette question en fond sur les droits de l'homme, avec la question des Oromo.
Vincent l'a dit, Madame Merkel arrive avant le jour de son arrivée, ou quelques jours avant, Dessalegn décrétait l'état d'urgence dans tout le pays, dans toute l'Éthiopie. Donc, elle a été cueillie à froid, Madame Merkel, en arrivant à Addis Abeba. Et c'est vrai qu'elle a eu raison d'insister sur la question des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, cette communauté Oromo, on en a parlé ici la semaine dernière, majoritaire dans le pays, subit une véritable oppression d'un pouvoir exercé par une minorité qui a accédé au pouvoir, les Tigréens, par les armes, par la révolution, en balayant d'ailleurs un des régimes les plus sanglants de l'histoire contemporaine africaine, le régime Mengistu.
Nouvelle tension entre Kigali et Paris, la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de Juvenal Habyarimana en 1994, impliquant des proches de Paul Kagame, irrite le président rwandais qui menace Paris d'une nouvelle rupture diplomatique. Les juges souhaitent entendre Kayumba Nyamwasa qui met en cause le chef de l'État. La dernière brouille remonte, date de 2006 et avait duré près de 3 ans. Mais une nouvelle épreuve de force avec Paris ne semble pas effrayer Paul Kagame, à Hassan Diop.
Non, Paul Kagame n'en fait qu'à sa tête, c'est dur à cuire, tout le monde le sait, c'est pas la première fois qu'on le constate. Donc 10 ans après cette brouille, 2006, c'était la première rupture diplomatique parce qu'il y avait la justice française qui enquêtait justement dans le cadre de l'attentat contre l'avion d'Habyarimana et qui avait abouti à l'inculpation par le juge Bruguière de 9 Rwandais, parmi lesquels d'ailleurs ce fameux Nyamwasa qui était le chef du renseignement. Ensuite, le juge Trévidic est venu dire que non, c'était pas les Tutsis, le FPR en tout cas, mais c'était les Hutus qui avaient ourdi l'attentat contre l'avion de Juvenal Habyarimana. Et puis enfin, voilà ce dossier que l'on rouvre, etc. Ce qui agace copieusement, on peut le comprendre, Paul Kagame. Franchement, c'est assez troublant parce que pourquoi Kagame, a peur que ce général, finalement, s'il se dit innocent, pourquoi a-t-il peur du témoignage de ce général? Donc c'est peut-être parce qu'il a des choses à cacher. Il a tellement de choses à cacher peut-être qu'il a cherché à l'éliminer. Je pense qu'il ne l'élimine pas du tout parce parce qu'il a peur que ce soit un rival politique qui viendrait lui piquer le pouvoir, mais il cherche peut-être à éliminer ce général Nyamwasa parce que ce général a trop de secrets. Et donc, une brouille à nouveau avec la France parce que justement, il veut coûte que ce général ne s'exprime pas devant la justice française.
Vincent Leger, on a quand même du mal à comprendre ce nouveau rebondissement puisque l'enquête du juge soviétique avait disculpé Paul Kagame.
Alors, l'enquête du juge Trévidique conclut qu'il ne peut pas conclure. C'est-à-dire qu'il dit que la zone de tir du missile fatal au Falcon 50 du défunt Juvenal Habyarimana est dans une zone, donc, qui est sous contrôle des extrémistes Hutus. Mais il ne va pas jusqu'à incriminer, puisque d'ailleurs, il y a une double clôture du dossier en 2014 et en janvier 2016, en attendant les réquisitions éventuelles du parquet et la décision des juges d'instruction actuels. Ce qui me frappe, c'est que rebond, mais on rebondit pas très haut, puisqu'au fond, on nous parle de rupture. Je n'avais pas remarqué que les relations avaient été au-delà de la forme.
Parce qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeur.
Ça fait quand même plus d'un an aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ambassadeur, notamment par refus d'agrément. Je pense que Paul Kagame adore cette configuration et qu'au besoin, il souffle sur les braises parce qu'en termes de rhétorique nationaliste, c'est évidemment du billard pour lui. Dernière remarque. Au-delà de tout ça, ce qui se joue à mon avis, c'est bien davantage aussi les procédures judiciaires engagées en France contre les génocidaires supposés ou présumés qui vivent. Vous avez eu deux temps. Il y a eu des condamnations. Hein, Pascal Simbikwanga, quand même un ancien officier de la garde présidentielle, qui a été condamné lourdement, 25 ans. Alors certes, il y a appel. Les deux bourgmestres, condamnés également, appel. Mais c'est vrai qu'à Kigali, il faut être très clair, on n'a absolument pas digéré le non-lieu fin 2015 accordé à Wenceslas Munyashaka, le prêtre. Et on met en cause ce qui me semble, alors pour le coup, profondément injuste, le travail du pôle génocide qui a été instauré en 2012 et qui, avec des moyens extrêmement limité, abat, à mon sens, un travail assez remarquable.
Pour Paul Kagame, c'est la France qui devrait être sur le banc des accusés.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que l'opération turquoise aux yeux de Paul Kagame, hein, qui avait été déclenchée au lendemain du génocide, hein, ou en plein génocide, cette opération qui était conduite par la France, avec l'autorisation de l'ONU, rappelons-le, eh bien, pour Paul Kagame, c'était l'expression d'une complicité française avec les génocidaires à l'époque. Et je crois que, de toute façon, les relations ne vont pas s'arranger. En tout cas, je sais pas qui sera le prochain chef de l'État français à supposer que ce soit le favori du jour. Alain Juppé, par exemple. Alors là, je pense que ce sera plus simplement de rupture, mais la fermeture même des deux ambassades des deux pays. Parce qu'effectivement, Juppé n'a jamais accepté que l'armée française soit mise en cause par Kigali.
Malgré tout, Vincent Leger, Paul Kagame est certainement le seul et le rare chef d'État à tenir tête à la France.
Il est devenu effectivement une sorte d'idéal type dans l'intelligentsia continentale. Soyons très clairs là-dessus. Le génocide de 94 est une abjection indépassable. Il y a une responsabilité française au sens où les signaux parfaitement explicites et captables n'ont pas été traités comme il aurait dû l'être. Mais dire, comme le dit Paul Kagame, je reprends une déclaration de 2014, que les militaires français du Turquoise ont été non seulement complices, mais acteurs, je le cite. Ça, je pense que c'est indéfendable historiquement. Mais je veux dire, il a là une rente de situation symbolique qui est absolument inépuisable. Et peu lui chaud, croyez-moi, qu'il y ait ou pas un ambassadeur en poste à Kigali venant de France.
Il y a eu le cas aussi de Madame Habyarimana, la veuve Habyarimana, oui, qui vit toujours à Paris.
Elle et ses avocats et les avocats des. Parce qu'on faudrait peut-être rappeler aussi, je rappelle à Paul Kagame, que si la justice française enquête, ce n'est pas par l'ingérence, c'est parce qu'il y a des Français qui sont morts dans l'attentat contre l'avion, le pilote, l'équipage du Falcon 50. Donc c'est aussi les avocats de ces parties-là qui appuient pour que ce dossier ne soit pas clos. Si vous permettez, je voudrais quand même dire la question de la responsabilité de l'attentat, à mon avis, ne doit remettre en aucunement en cause le caractère génocidaire du régime d'Habyarimana. Même si, je vais le dire comme ça, mais même si le FPR avait quelconque responsabilité dans l'attentat, ça n'empêche pas, ça ne le rend pas responsable du génocide. D'ailleurs, il y a un officier qui a publié une tribune récemment, son nom m'échappe, Guillaume Ancel, en interpellant le président François Hollande, en disant « Aurez-vous l'audace de reconnaître cette responsabilité ?»
Ça sera le mot de la fin. C'était Afrique Presse. Merci à Sam Diop de Radio France Internationale, à Vincent Jeune de L'Express et à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. Merci de votre fidélité.